Avant de lire la Bible, je vous invite à prier. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui de recevoir ta parole comme une parole vivante. Donne-nous de nous en souvenir. Donne-nous de la comprendre. Donne-nous de la mettre en pratique. Merci pour cette parole que tu nous adresses encore aujourd'hui. Amen. Le texte de ce jour est un texte un peu long et nous allons donc le lire à deux pour que vous ne vous endormiez pas pendant que je vais le lire tout seul. Et c'est Nicole qui doit venir, voilà, je la trouve, je la cherchais des yeux. C'est dans Actes 27. Oui.
La décision est prise de nous faire partir en bateau pour l'Italie. On confie Paul et quelques autres prisonniers à un officier romain appelé Gilius. Il fait partie d'un groupe de soldats au service de l'empereur. Nous montons sur un bateau de la ville d'Atramite qui doit aller vers les ports de la province d'Asie. Puis, nous partons. Il y a avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous arrivons à Sidon. Julius est bon avec Paul. Il lui permet d'aller voir ses amis et de profiter de leur service. Ensuite, nous repartons, mais les vents soufflent contre nous. Alors, nous passons du côté abrité de l'île de Chypre. Puis, nous traversons la mer de Cilicie et de Pamphylie et nous arrivons en Myre, en Lycie. Là, l'officier romain trouve un bateau d'Alexandrie qui va vers l'Italie. Il nous fait monter sur ce bateau.
Pendant plusieurs jours, nous avançons lentement et nous arrivons avec beaucoup de difficultés devant la ville de Cnide. Mais le vent nous empêche de continuer dans cette direction. Alors, nous allons vers le côté abrité de l'île de Crète, en passant par le cap Salomé. Nous suivons la côte difficilement et nous arrivons à un endroit appelé les bons ports, près de la ville de Lazée. Mais nous avons perdu beaucoup de temps et cela devient dangereux de continuer le voyage. En effet, le jour du jeûne de septembre est passé. Paul veut donner son avis et il dit « Mes amis, je vois bien que le voyage va être dangereux. Le bateau et ses marchandises vont être abîmés et nous risquons même de perdre la vie. » Mais l'officier romain fait plus confiance au capitaine et au propriétaire du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, le port n'est pas bon pour y passer la mauvaise saison. Donc, presque tous les gens du bateau décident de repartir de là et ils veulent atteindre, si possible, un port de Crète appelé Phénix. Ce port est tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. Ils veulent passer la mauvaise saison là-bas. Un vent du sud se met à souffler doucement et les gens du bateau croient que leur projet va réussir. Ils partent et ils essaient d'avancer le long de l'île de Crète.
Mais peu de temps après, un vent de tempête appelé vent du nord-est vient de l'île et il souffle très fort. Le bateau est entraîné. Il ne peut pas résister au vent et nous nous laissons emporter. Nous passons du côté abrité d'une petite île appelée Coda. Ainsi, avec beaucoup de difficultés, nous arrivons à reprendre le canot de sauvetage. Puis, nous le faisons remonter sur le bateau, puis les marins attachent des cordes de secours autour du bateau. Ils ont peur d'être jetés sur les bancs de sable du golfe de Libye. Alors, ils lâchent dans la mer l'ancre flottante et se laissent entraîner par le vent. Le jour suivant, la tempête continue à nous secouer avec force. C'est pourquoi les marins jettent des marchandises à la mer. Et le lendemain, ils font descendre dans l'eau le mât et les voiles du bateau. Pendant plusieurs jours, on ne peut pas voir le soleil ni les étoiles. La tempête reste toujours aussi forte. Nous n'espérons plus du tout être sauvés. Nous n'avons rien mangé depuis longtemps. Alors, Paul se tient debout devant tout le monde et il dit « Mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Nous aurions évité la tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir, nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit, « Paul, n'aie pas peur, tu dois être jugé devant l'empereur, et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage, j'ai confiance en Dieu. Oui, ce Dieu m'a dit va arriver. Ce que Dieu m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte du Nil. »
C'est la 14e nuit et la tempête nous emporte toujours sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins ont l'impression que nous approchons d'une terre. Ils lancent un poids tenu par une corde et ils trouvent que l'eau est profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils recommencent et trouvent que l'eau est profonde de 28 mètres. Ils ont peur que le bateau ne touche les rochers. C'est pourquoi ils jettent 4 ancres à l'arrière et ils attendent le lever du jour avec impatience. Les marins font descendre le canot de sauvetage à la mer en disant « Nous allons jeter des ancres à l'avant du bateau ». Mais ce n'est pas vrai, ils veulent s'échapper du bateau. Paul dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pourrez pas être sauvés. » Alors, les soldats coupent les cordes du canot et ils le laissent partir à la mer. En attendant le lever du jour, Paul invite tout le monde à manger quelque chose. Et il leur dit, « Aujourd'hui, cela fait 14 jours que vous attendez et vous êtes restés sans rien manger. » Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Vous en avez besoin pour être sauvés. En effet, vous ne perdrez rien, même pas un cheveu de vos têtes. Après ces paroles, Paul prend du pain, il remercie Dieu devant tout le monde, puis il partage le pain et se met à manger. Alors tous reprennent courage et ils mangent aussi. En tout, nous sommes 276 personnes sur le bateau. Quand ils ont assez mangé, ils jettent le blé à la mer pour rendre le bateau plus léger. Quand le jour se lève, les marins ne reconnaissent pas la terre, mais ils voient une baie avec une plage et ils décident de conduire le bateau jusque-là, si possible. C'est pourquoi ils détachent les ancres et les laissent dans la mer. Et en même temps, ils défont les cordes du gouvernail, puis ils mettent une voile à l'avant du bateau. Alors le vent le pousse et ils avancent vers la plage. Mais il touche un banc de sable et le bateau ne peut plus bouger. L'avant est enfoncé dans le sable et ne peut plus sortir. Puis, les vagues violentes cassent l'arrière.
Les soldats veulent tuer les prisonniers pour que personne ne s'échappe en nageant. Mais l'officier romain veut sauver Paul et il empêche les soldats de faire ce qu'ils ont décidé. Il commande à ceux qui savent nager de sauter dans l'eau les premiers et d'aller vers la terre. Les autres vont les suivre sur des planches ou sur les restes du bateau. De cette façon, ils arrivent à terre et tous sont sauvés. Après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. Ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu et nous accueillent tous autour du feu. Près de cet endroit, il y a la propriété du principal noble de l'île. Il s'appelle Publius. Pendant 3 jours, il nous reçoit et il nous loge comme des amis dans sa maison. Le père de Publius est couché. Il a de la fièvre et de la dysenterie. Paul va le voir. Il prie en posant la main sur sa tête et il le guérit. Alors, tous les autres malades de l'île viennent voir Paul et celui-ci les guérit. Les gens nous montrent beaucoup de respect. Quand nous partons, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour le voyage. Au bout de 3 mois, nous partons sur un bateau d'Alexandrie. C'est le Castor et Pollux qui avaient passé la mauvaise saison dans l'île.
La tradition veut qu'en ce mois de janvier, les églises séparées se retrouvent pour une ou plusieurs célébrations communes, semaine de l'unité des chrétiens, semaine de l'alliance évangélique, etc. Il y en a d'autres dans d'autres pays. Les frères et sœurs séparés, et il faut l'avouer, quelquefois un petit peu en froid aussi, une fois par an, se retrouve pour signifier que malgré tout, ils sont frères et sœurs et en tout cas qu'ils ont un même père. Alors malheureusement, dans notre secteur, cela n'a pas été possible cette année, entre autres à cause des problèmes de santé du prêtre catholique qui a dû annuler cette rencontre qu'il avait souhaité lui-même. Mais même si nous n'avons pas pu cette année exceptionnellement vivre quelque chose de cet ordre-là, ce n'est pas une raison pour ne pas méditer ensemble sur le texte biblique qui était proposé pour la réflexion de cette semaine. Et cette histoire de naufrage a justement, je crois, quelque chose à nous dire, et c'est pas pour rien qu'elle a été choisie pour cette semaine, bien sûr, quelque chose à nous dire au sujet de l'unité des chrétiens. Vous savez que dans le Nouveau Testament, la barque, le bateau, symbolise généralement l'Église. Et l'histoire d'un bateau qui a embarqué tellement de gens différents ne peut pas ne rien avoir à nous dire. Paul, dans cette histoire, vous l'avez remarqué, n'est pas seul. Avec lui, dans le bateau, il y a des prisonniers, il y a Julius, un centurion romain, des soldats qui gardent les prisonniers, entre autres, des marins, et puis ensuite il y a les habitants de Malte, dont Publius et son père, une véritable société composée de divers groupes, dont principalement des païens. Du début de cette histoire jusqu'à la fin, vous avez remarqué que Paul recherche avant tout la sécurité de tous, sans faire de distinction entre les prisonniers et les gardiens, les soldats romains et les marins, et au moment du plus fort abattement, au moment où ça ne va plus, il prend la parole pour rassurer cette assemblée de désespérés. Et ce sur quoi je voudrais faire porter notre attention ce matin, c'est l'importance de l'unité de ce groupe dans lequel pourtant personne n'a vraiment choisi d'être. Personne n'a choisi d'être là. Ils sont là sur ce bateau sans l'avoir vraiment voulu, à part peut-être les marins. Et Paul fera tout pour sauvegarder cette unité. Pour que la promesse de Dieu se réalise, il faut que tout le monde reste ensemble. Je cite, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, autrement dit, s'ils se désolidarisent du groupe, vous ne pourrez être sauvés », dit Paul au verset 31. C'était le moment où les marins tentaient de fuir le navire en perdition. Le salut des uns dépend de celui des autres. Personne ne sera sauvé tout seul, et surtout, personne ne pourra être sauvé contre les autres. Le récit insiste beaucoup là-dessus et sur le rôle que Paul a joué afin d'éviter l'éclatement de cette micro-société hétéroclite qui risquait de se disloquer à l'occasion du naufrage, si le bateau qui les obligeait à rester ensemble se disloquait lui-même. Tant qu'ils étaient dans le bateau, ils étaient un peu obligés de rester ensemble. Hein. Mais après, on aurait pu imaginer que les prisonniers partent de leur côté, les soldats leur courent après, que les marins essaient de trouver un autre bateau, etc. Et au moment de quitter le navire, dans la panique, ce sont les soldats qui, ne sachant plus que faire des prisonniers, vous l'avez entendu, veulent les éliminer. Et il faut l'intervention là du centurion romain qui, pour sauver Paul, là aussi, sauve tout le monde. Pour en sauver un, on sauve tous les autres. Il fallait que tout le monde soit sauvé. Le point d'orgue de ces interventions de Paul est le repas partagé avant de quitter le navire, repas qui va redonner de la force aux 276 passagers, la force d'affronter la dernière étape. Au plus fort de la crise, pour sceller cette unité, Paul donc organise un repas avec les prisonniers, leurs gardiens, les soldats, les marins, Pourtant, les relations entre les soldats et les marins, je pense, ne devaient pas être très bonnes, vu qu'ils leur avaient empêché de s'échapper. Mais Paul rassemble tout le monde. Il rassemble les chefs, les subalternes, les judéo-chrétiens, les païens. Il rassemble tout le monde. Et nombreux sont les commentateurs qui, en lisant ce texte, ont pensé à la Sainte Cène. Je ne sais pas s'il y a une allusion à la Sainte Cène ou pas. En tout cas, certains commentateurs en voient une. Un genre de dernier repas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce repas a certainement renforcé les liens entre tous les protagonistes de cette aventure à ce moment-là. Du coup, une fois à Malte, les rescapés, j'aurais envie de dire les réfugiés, pour faire un petit clin d'œil à la situation aujourd'hui à Malte, qui continue à recevoir des bateaux en détresse, mais qui les reçoit moins bien que ce qu'on avait reçu Paul et à l'époque. Mais je referme ma parenthèse. Donc une fois à Malte, les rescapés deviennent un seul corps social. Et à partir de là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le texte, on emploie le « nous ». On ne parle plus des offices, des Romains, des marins, etc. Celui qui écrit le texte dit « nous ». Et contrairement à toute attente, le naufrage ne fait pas éclater cette micro-société. Et vous remarquerez donc qu'à partir de ce moment-là, l'auteur ne distingue plus entre les différents sous-groupes en présence. Il n'y a plus aucune distinction entre les différents sous-groupes à partir de ce moment-là, à partir du moment où il emploie le « nous », la première personne du pluriel. Et il parle du groupe des rescapés comme une seule entité liée par un destin commun. Il reste là 3 mois, accueilli par les habitants de l'île. Ceux-ci leur ont témoigné d'un accueil peu ordinaire, sans lequel ils n'auraient certainement pas tous survécu, parce que passer l'hiver quand même sur l'île de Malte, si on n'a rien à manger, ni si on n'est pas accueilli quelque part, même si on avait l'habitude d'une vie un peu plus rude qu'aujourd'hui, ça ne devait pas être simple. Et donc, l'accueil et l'hospitalité des Maltais permet de faire vivre quelques mois d'entraide à des groupes que rien n'appelait à se rencontrer. Et Paul répondra à cet accueil par des actes de bienfaisance, guérison. Contrairement à ses habitudes, il ne va pas prêcher. Paul ne saisit pas cette occasion pour prêcher, pour créer une église à Malte. Et pourtant, il y est resté 3 mois, ou alors en tout cas, ça ne nous est pas raconté. Sa seule préoccupation semble être le maintien de l'unité de ce groupe. Ce naufrage et ce séjour imposé par le naufrage nous offrent donc un modèle de relation idéale à vivre entre chrétiens, mais aussi entre chrétiens et non-chrétiens, et entre différentes classes sociales. L'unité dépasse largement le cadre de l'Église ici. Les chrétiens agissent ensemble pour le bien de toute la communauté dans laquelle ils sont accueillis, en renouant des liens brisés, en évitant que d'autres se brisent, en apportant de la convivialité, en exigeant la solidarité et en apportant aussi la santé, la joie, etc. 2 fois dans le récit, le chacun pour soi menace le salut de tous. Mais Paul résiste à ce chacun pour soi et convainc les uns et les autres de regarder au bien commun. Et je voudrais faire remarquer encore une chose, c'est que si Paul a pu agir ainsi pour la sécurité et le salut de tous, c'est parce qu'il était avec eux dans la tempête. Comme pour les prophètes de l'Ancien Testament, Paul n'est pas épargné par la tempête qu'il avait annoncée. Vous savez, quand les prophètes annonçaient une catastrophe, ils se l'annonçaient à eux aussi, hein, ils étaient dans l'eau. Eh bien, Paul, c'est un peu pareil. Il avait annoncé la tempête et il s'est retrouvé dedans. Dieu aurait pu lui épargner la tempête, mais s'il n'avait pas été au cœur de cette tempête, dans la solidarité avec tous ces groupes, il n'aurait pas pu y faire tout ce qu'il y a fait. On n'agit pas de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur d'un groupe humain. Alors, c'est un défi aujourd'hui pour nos églises et nos sociétés de suivre l'exemple de Paul. Comme lui, nous sommes embarqués dans le même bateau que tout le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que les tempêtes de la vie nous sont épargnées, vous le savez bien. Et un certain nombre d'entre nous en ont fait plusieurs fois la cruelle expérience dans leur vie. Et comme Paul a manifesté de la solidarité avec ceux qui étaient embarqués avec lui dans la même galère, sans faire de distinction de religion, de classe, notre rôle en tant que croyants est aussi de travailler à développer des valeurs humaines de solidarité là où nous sommes. Cette solidarité se vit bien sûr dans nos familles, mais aussi au niveau de nos villages par les engagements que nous y avons, la présence que nous y avons. Et bien entendu, en particulier avec ceux qui appartiennent à une autre église. Ce texte nous apprend donc au moins une chose, c'est que la bénédiction de Dieu passe par la fraternité humaine pour atteindre tout le monde. Le résultat, et je voudrais terminer avec ça, le résultat, on aurait pu s'attendre à autre chose, mais c'est comme ça, le résultat n'est pas la conversion des habitants de Malte. Ça, c'est venu après, mais puisque Malte est devenue une île chrétienne après, mais là, ils ne se convertissent pas. Mais il nous est dit que 3 mois plus tard, donc, les barbares ont donné de multiples marques d'honneur à Paul et à son groupe après avoir pourvu à tous leurs besoins. Ce qui prouve qu'une vraie relation s'était tissée entre eux pendant ces 3 mois. On ne sait pas grand-chose de ces 3 mois, hein, mais on sait au moins ça. Et ce n'est pas rien. Le fait qu'au bout de 3 mois, cette société se soit créée, ce n'est pas rien. Et dans leur histoire, nos églises, les églises du Pas des Cévennes, ont eu à prendre des positions pour préserver l'unité des chrétiens, pour travailler à l'unité des chrétiens, mais aussi de toute la population. Et il nous reste aujourd'hui à continuer dans cette voie en ne nous laissant pas décourager par les diverses tempêtes que nous traversons, en sachant que c'est toujours, quand on est au cœur de la tempête avec les autres, dans les difficultés avec les autres, que l'on peut, comme Paul, apporter quelque chose pour l'unité du monde dans lequel nous vivons. Amen.